Vous écoutez RFI, minuit et demi à Kisangani et à Bukavu, 22h30 en temps universel.
Sylvie Berruet.
Bonsoir. À la une de cette édition, la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo et l'inquiétude des Kinois pour leurs proches vivant à Goma, une semaine après l'offensive lancée sur la capitale du Nord Kivu par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Nous parlerons également de cet appel au don du sang à Kinshasa pour les militaires et leurs alliés qui combattent dans l'est de la RDC. Face à la guerre dans la région, le président du Burundi met en garde contre le risque d'un conflit régional. Et puis les sports, MMA. Le Français d'origine russe Nassourdin Imavov remporte le combat dès la deuxième reprise face au Nigérian Israël Adesanya ce soir en Arabie Saoudite. Voilà une semaine que les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont lancé leur offensive sur la ville de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Et pendant plusieurs jours, les habitants sont restés terrés chez eux de peur de sans pouvoir s'approvisionner ni même communiquer, l'électricité étant coupée. Et puis à Kinshasa, la capitale, de nombreux Kinois sont inquiets pour leurs familles et leurs proches qui vivent dans la capitale du Nord Kivu. C'est un reportage d'Alexandra Bonjon.
Originaire du Nord Kivu, Gisèle vit à Kinshasa depuis une dizaine d'années. Toute sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, ses cousins vivent à Goma. Lundi dernier, elle a perdu tout contact avec eux, le début de plusieurs jours d'angoisse.
Lundi à 12h, je n'avais plus de contact avec eux et ça m'a tellement inquiétée. À chaque fois, j'avais mon téléphone à la main, je me disais peut-être qu'une soirée, ils vont m'appeler ou bien ils vont me faire un message, mais c'était un silence absolu. Je n'arrêtais pas de me poser de questions. Est-ce qu'il n'y aurait pas une balle perdue chez eux? Est-ce qu'il n'y aurait pas une bombe qui va tomber dans la parcelle et qui va les emporter tous? Je ne dormais pas.
Même situation pour Christina, dont une vingtaine de membres de la famille sont toujours à Goma. Et même si aujourd'hui les communications sont rétablies, l'angoisse est toujours présente.
Aujourd'hui, je les appelle le matin, la journée, le soir pour m'assurer que ça va. Les inquiétudes restent par rapport à l'avenir parce qu'on ne sait pas où est-ce que tout cela va mener. En ce moment, nous réfléchissons à l'idée d'évacuer surtout les petits-enfants. On ne peut pas vivre normalement parce qu'on est loin et on se sent un peu coupable parce qu'on s'est dit, ben, nous ici quand même ça va, mais là-bas ça ne va pas. On s'est fait une sorte de carapace, on s'est dit, bon, ça va passer. Ouais.
Depuis, toutes les deux sont suspendues à leur téléphone et à la moindre information. Alexandra Branjon, Kinshasa, RFI.
Et restons à Kinshasa où les autorités congolaises lancent une campagne de collecte de sang pour aider les militaires qui combattent dans l'est du pays. Depuis jeudi, des tentes sont érigées au palais du peuple de Kinshasa pour effectuer des prélèvements. Objectif, obtenir 5000 poches de sang. Et ce soir, lors d'une conférence de presse, le ministre de la Santé, Samuel Kamba, a appelé la population à soutenir l'effort de guerre.
Nous avons vu que les blessés sont très très nombreux, le besoin en sang est très élevé. Et donc nous avons lancé ici une campagne de collecte de sang. J'en profite vraiment pour demander à tous les Congolais de donner son sang. Sincèrement, c'est une denrée très importante pour nos militaires, pour nos Wazalendo, pour nos populations civiles. Ne pensez pas que si vous ne donnez pas, quelqu'un d'autre donnera. Non, vous devez donner parce que c'est comme ça que nous allons nous-mêmes participer directement à la solution. Parce que quand vous donnez du sang, eh bien vous permettez à un militaire de repartir au front. Et s'il était blessé léger mais qu'il a eu besoin de transfusion, vous lui permettez de repartir au front. Vous permettez de le sauver et de permettre que d'autres personnes aussi soient prises en charge.
Le ministre de la Santé, Samuel Kamba, qui a par ailleurs fait savoir que depuis l'offensive sur la capitale du Nord Kivu, de Goma, par les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda dimanche dernier, on a dénombré plus de 700 morts et plus de 2800 blessés qui ont été traités dans les hôpitaux de Goma. Un conflit observé de très près par les pays voisins. Le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, dit craindre une guerre régionale. Dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, il affirme que ce conflit est une menace pour toute la région, du Burundi à la Tanzanie, à l'Ouganda, en passant par le Kenya. L'armée ougandaise, elle, a pour sa part annoncé vendredi qu'elle allait renforcer ses défenses dans l'est de la RDC, où elle est présente depuis 3 ans dans le cadre d'une opération de lutte contre les rebelles ADF, menée avec les forces régulières. Mais dans le même temps, l'Ouganda a été accusé à plusieurs reprises par l'ONU de soutenir le M23. Cette annonce alors est donc très ambiguë pour Jason Stearns. Il est fondateur du groupe de recherche sur le Congo à l'Université de New York.
Je pense qu'elle est quand même inquiétante dans le sens que l'Ouganda est dans une position compliquée et ambiguë. D'un côté, l'Ouganda veut avoir des bonnes relations avec son voisin. Et en même temps, l'Ouganda, une partie au moins des élites politiques ougandaises, veulent surveiller un peu ce que leur voisin du sud, le Rwanda, est en train de faire en RDC. Il y a aussi des gens en Ouganda, notamment le fils du président, Muhoozi, qui soutiennent l'M23 assez ouvertement. Donc, je pense que l'Ouganda, même à l'interne, est un peu divisé par rapport à ce qui est en train de se passer. En RDC, il n'y a pas aussi de clarté du gouvernement congolais. On n'a pas entendu de leur côté si ce renforcement des Ougandais a été accepté de leur côté. Est-ce qu'ils vont déployer des troupes et où? La question qu'on se pose, c'est l'M23, il pourrait aussi aller au nord. Et s'ils vont au nord, c'est effectivement la zone où les Ougandais sont déployés. Alors, si les Ougandais prêtent main forte aux rebelles M23, ça serait très difficile pour le gouvernement congolais de résister.
Le chercheur Jason Stearns avec Florence Maurice. Et puis à Paris, près de 1500 manifestants ont défilé ce samedi pour dénoncer le manque de soutien de la communauté internationale face à cette offensive du M23 soutenue par le Rwanda dans l'est de la RDC. Les manifestants, pour la plupart des membres de la communauté congolaise, ont marché de la place de la Bastille vers celle de la Nation. Direction le Cameroun, le Maroc, les véhicules de 4 camionneurs marocains qui étaient portés disparus depuis le 18 janvier sur une route entre le Burkina Faso et le Niger viennent d'être retrouvés par l'armée nigérienne. Les explications à Casablanca de Mathias Reynal.
C'est lors d'une mission de reconnaissance menée il y a une semaine autour de la ville de Terra, dans le sud-ouest du pays, que l'armée nigérienne est tombée sur 4 camions, immédiatement transférés à Niamey pour les besoins de l'enquête. Selon cette source, les camions sont bien ceux des ressortissants marocains enlevés il y a 10 jours et qui, eux, restent introuvables à ce stade. Toujours d'après l'armée, les camions transportaient des équipements destinés à la société nigérienne d'électricité. Ils circulaient sans escorte dans cette région où s'activent plusieurs groupes terroristes. L'armée nigérienne annonce qu'elle va intensifier ses recherches, multiplier les missions de reconnaissance dans la région et surveiller les zones frontalières sensibles. La situation des camionneurs reste incertaine alors même que plusieurs médias marocains ont annoncé dès le 20 janvier leur libération, reprenant les déclarations d'un syndicat de transporteurs qui lui-même citait des professionnels locaux. Contacté par RFI, ce syndicat avait finalement invité à la prudence. La libération des camionneurs n'a jamais été confirmée officiellement par les autorités marocaines. Mathias Reynal, Casablanca. RFI.
En bref, des frappes aériennes américaines en Somalie. Donald Trump annonce que les États-Unis ont ciblé ce samedi plusieurs combattants du groupe État islamique. De nombreux terroristes ont été tués. Des grottes ont été détruites, selon le président américain. Pas davantage de détails. Et puis au Soudan, une cinquantaine de personnes ont été tuées ce samedi dans le bombardement d'un marché du quartier d'Omdurman, dans la proche banlieue de Khartoum. Il y a plus de 130 blessés. Et selon le ministère de la Santé soudanais, cette attaque a été attribuée au FSR, les forces de soutien rapide. Le sport, et c'est le plus grand exploit des arts martiaux mixtes en France. À seulement 28 ans, Nassourdine Imafov est venu facilement à bout ce soir de la légende nigériane de l'UFC et ancien champion des moins de 84 kilos, Israël Adesanya. Victoire par KO technique dès le début de la deuxième reprise, alors que le titre de champion se rapproche de la taille du combattant français. Adesanya enchaîne une troisième défaite de suite et continue sa chute, Sofia Namazian.
L'air hagard, Israël Adesanya prend quelques instants pour se remettre des coups ravageurs de son adversaire avant de taper du poing sur le sol de rage. Car comme lors de ses deux précédents combats, l'ancien champion des poids moyens de l'UFC s'est fait surprendre alors qu'il avait le combat en main. Annoncé comme favori de ce duel face à la nouvelle comète du MMA français Nassourdine Imafov, le natif de Lagos voulait remettre les pendules à l'heure et se replacer dans la course au titre. Malgré un premier round assez nettement dominé par le Nigérian, Imafov s'est montré plus offensif dès la deuxième reprise, à l'image de cet enchaînement de coups dévastateurs au visage de l'athlète de 35 ans. Une fin brutale, amère et symbolique. Alors que Nassourdine Imafov s'envole vers les hauteurs du classement, Adesanya déchante, lui qui a défendu 8 fois sa ceinture de champion à l'UFC au cours de sa carrière. La chute semble inéluctable. Après être tombé face à l'américain Sean Strickland et face au sud-africain Dricus du Plessis, la retraite sportive, une possibilité, même si le principal concerné n'a encore rien communiqué.
Sofia Namazian, et c'est la fin de cette dernière édition d'Afrique Soir. Merci de l'avoir suivi. 22h40 en temps universel, 23h40 ici à Paris. Bonne soirée.